C'est marrant, c'est tout doux. Il y a un petit côté, c'est biface, donc c'est sympa. Bon, il y a des petits boutons, donc je peux les. Voilà. On peut les bouger et tout, c'est marrant. Il y a une petite molette et tout, c'est sympathique. Qu'est-ce que je pourrais en faire de ça? Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque un Pokédex en fait. L'enfance et tout, tu vois, les gros objets comme ça, une manette de Game Boy un petit peu. C'est marrant. Ouais, c'est un petit. Ouais, ça fait manette de jeu. Avec un petit côté poilu, quoi. Ah putain, il y a un truc dur sous le truc, sous la petite fourrure. Je peux le décapoter ou quoi? C'est cranté sous mes doigts, c'est ouf.
Radio Labo. Donc bonjour à tous et bienvenue. Donc pour cet exercice radiophonique, on a voulu proposer à l'auditeur un voyage d'études autour d'un objet. Et donc ce qu'on voulait faire, c'était partager l'expérience faite avec cet objet par le biais de plusieurs pièces sonores qui viennent témoigner de notre rencontre avec l'objet. Donc en tant qu'étudiant en design, on trouvait ça assez judicieux de se positionner du côté de l'utilisateur et de faire écouter ce qui résulte de l'échange avec l'objet.
Et pour ce premier opus, nous avons voulu faire parler à l'enregistreur. Faire parler un objet, c'est de se mettre à sa place et lui donner de la parole, avec des mots, des phrases, mais aussi on peut imaginer de le faire parler à travers son propre langage, ses grincements, ses bruitages. On a choisi l'enregistreur comme l'élu de cette première mission, du simple fait que c'est le premier objet qu'on a eu dans la main et le premier outil de travail de l'atelier. On a décidé de l'aborder avec un regard neuf, sans protocole à l'avance, et de juste se laisser porter par l'expérience de l'objet.
Donc voilà, donc en gros, ce qui nous a intéressé, c'était de jouer avec la matière première enregistrée de manière vraiment brute et de voir comment, à partir de celle-ci, on pouvait raconter quelque chose. Et donc, cette approche quelque peu enfantine se sent d'ailleurs donc dès notre première prise en main.
Moi, j'entends rien.
Moi non plus. Que de bordel.
Putain, j'entends que dalle, gros.
Bah, t'entends, non?
Non, non, j'entends pas.
Ce son.
Ah, attends.
Le volume de la sortie, il est où? C'est ça?
Ouais.
Oui, non, mais attends, mais mets pas trop fort, ça va me péter les oreilles.
Mais ça veut dire que t'entends?
Mais non. Non, non, j'entends rien, là. Pourtant ça marche.
Ouais.
J'entends que dalle. Non non parce que là tu vois je monte la sortie casque. Mais on est con putain évidemment. C'est le trou du casque il est là.
Ah putain.
Allez.
Non, non, vas-y.
Ah bah voilà, bah là j'entends.
Donc après ce premier contact très concluant, nous avons décidé de continuer notre aventure sonore et de rendre accessible à tous l'usage de l'enregistreur.
Mille et une façons de s'éveiller. C'est explorer, découvrir par soi-même le son à sa façon. Parce que bébé en a besoin de découvrir le son. Et c'est pour ça que nous concevons nos sonotoys. Mets la moumoute, branche ton petit casque, appuie sur le gros bouton rouge et c'est parti.
Sonotoy!
Les coulisses.
Sonotoys.
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 Ouais, c'est plus. Moi, je reviens de truc genre Sonotoy. T'es truc trop.
Sonotoy, trop joyeux.
Ouais.
Enfin, un truc joyeux. Ouais.
Truc joyeux.
Antoine Doinel. Antoine Doinel. Antoine Doinel. Antoine Doinel. Antoine Doinel. Antoine Doinel. Antoine Doinel.
Donc, au-delà de ce problème d'articulation, nous avons essayé d'exporter notre laboratoire dans un lieu propice à la cueillette sonore. Donc, le PMU s'est imposé de lui-même lorsque, du dehors, nous avons écouté.
Alors,
gagné, toi. Ah, c'est bien, il a gagné. Il y a une erreur sur le lit.
Je t'ai dit, il y avait une couille, avec les... J'ai rien vu.
Ouais, je l'ai vu. Non, oui, tu te tiens la main, personne ne passe à toi, tranquille, tu te balades. Non, ça fait sac à main, sauf si c'est un garçon, on n'a pas de chance.
Soit vous venez le vendredi nocturne, le soir.
Ouais.
Ah oui, vous allez être gâtés, il y a tout le monde, au moins ici.
Le vendredi soir.
Le must, c'est totalement raison. Vendredi soir pour le quintet, alors là c'est le must.
D'accord. Et donc c'est à quelle heure?
C'est à 20h25, mais avant même, à 20, à un quart vous arrivez, vous restez là, c'est le bouchon.
Et là il y a la grosse ambiance.
Et là en plus il y a la
faites course attention, il ne faut pas les emmerder.
Ah oui, ouais, ils sont pris dedans. Ouais, voilà.
Ça risque que vous prenez une droite. Et surtout, quand il y a un perdant, ça vous le cachez.
Ouais. Voilà. Sinon,
mais comme
pas...
ça, non, mais même il n'a pas besoin de mettre comme ça.
Non, on n'est pas des joueurs, on est plutôt tranquille.
Ah, c'est cool.
On se boit un verre, on discute entre nous.
Marc, tu m'embrasses là, comme tu fais d'habitude, et après.
Tu dois annuler.
Mais j'ai annulé rien, moi.
Donc 20h15.
Ouais, 20h15, vous dépassez. Ah, là, c'est rempli.
Ouais.
Jusqu'à la fin, la fin du quintet, c'est 21h maximum. Moins 10, tout le monde a disparu.
Ok, ça marche.
J'ai oublié un quart d'heure d'enregistrement royal.
Ouais.
Vous passez ça, avance, comme ça. Et vous, je dirai dans le reportage.
Et donc, le vendredi suivant, on est donc allé assister au quintet au PMU. Et là, ça a donné ça.
Après toutes ces premières expériences autour de l'enregistreur, moi j'ai essayé plutôt d'apporter un regard sur l'objet en tant qu'apprenti designer. Comment finalement les objets, ils ont aussi une histoire, ils apparaissent dans un contexte précis et comment ça peut jouer sur ce qu'ils sont aujourd'hui et sur le regard qu'on porte sur eux. Et donc du coup je vous propose d'écouter une première petite émission qui parle de la cuillère à glace.
Élégante, brillante et sculpturale. La cuillère à glace Zerol a une beauté intrinsèque. Mais si son design, œuvre de Sherman Kelly, est resté inchangé depuis son apparition en 1935, c'est qu'il répond parfaitement parfaitement à la tâche ultra simple qui est la sienne. Servir de la glace.
Marchand de glace, c'est un très bon métier. Pas aux pieds.
Dans les années 1930, la glace cessa d'être un produit de luxe pour devenir une denrée disponible et bon marché.
Grâce à des avancées industrielles,
comme le procédé de réfrigération en continu. Cependant, à la sortie du congélateur, la glace est souvent dure et difficile à racler ou extraire de son bac à la cuillère. L'invention de Kelly, qui se trouve littéralement au cœur de la cuillère à glace Zerol, c'est un noyau creux renfermant un antigel. Celui-ci conduit la chaleur corporelle depuis la main de l'utilisateur jusqu'au tranchant qu'elle aide à se frayer un chemin dans la glace. Le manche est à dessin épais afin d'abriter la chambre à antigel, mais aussi d'offrir une meilleure prise qu'une simple cuillère, ce qui est appréciable quand on a affaire à un produit glissant et prompt à vous glacer les doigts. Cette cuillère à glace de 18,5 cm a pour autre avantage de servir de portion plus régulière qu'une cuillère ordinaire. Elle est aussi d'un entretien et d'un nettoyage beaucoup plus facile que ses concurrentes mécaniques étant d'une seule pièce, sans partie amovible. La cuillère Zerol présentait donc une avancée pour les glaciers, mais elle s'imposa aussi à l'esprit du consommateur.
So good.
On ne l'associe guère qu'à la glace parce qu'elle ne sert à rien d'autre et qu'elle est apparue au moment où la crème glacée industrielle devenait un produit de consommation universel. Elle répond amplement à ce que la glace attendait d'elle. Son aspect brillant lui donne l'air d'un article de luxe, d'une pièce d'orfèvrerie plus que d'un ustensile de cuisine. Lisse, merveilleuse et absolument nécessaire, la cuillère à glace est empreinte de lettrés éternels de la nostalgie.
Au pays de Guédaragon, il y avait une fille qui vendait des glaces citron et vanille. Au pays de Guédaragon, il y avait un garçon qui vendait des glaces au vanille et citron.
Donc ce qui m'a intéressé aussi dans cette petite émission, c'est que c'est un format court qui traite d'un objet industriel. Et donc c'est un format qui est déclinable en fait pour différents objets qu'on peut imaginer être reproductible pour parler de différents objets. Et j'avais aussi envie d'essayer de jouer dans cette première approche du son avec justement un peu les bruitages et la musique, quitte à en faire trop. Mais c'était une première approche. Et donc je vous propose d'écouter pour voir ce que ça peut donner en déclinaison une autre petite émission sur cette fois le verre à martini.
Avec son verre limpide et incolore et sa forme géométrique, le verre à martini est un récipient aussi emblématique que le cocktail à la gloire duquel il a été conçu.
My martini, please.
Il a atteint une telle perfection que personne n'est jamais parvenu et ne parviendra probablement jamais à faire mieux. La silhouette hardie de ce verre, avec sa coupe évasée, en V, bien nette, montée sur un pied élancé et une base élégamment proportionnée, est désormais un incontournable du cocktail. Et pourtant, en dépit de sa célébrité, ses origines précises restent difficiles à établir. On sait qu'il est apparu vers le milieu des années 20, avec le vent de renouveau qui soufflait alors sur les réceptions mondaines et la verrerie conçue à leur usage. En matière de cocktail, le goût n'était plus aux extravagances du début des années folles, mais à une simplicité raffinée,
martini extra dry,
comme celle des martini et des manhattans qui comptaient déjà de fervents adeptes. De même que ces cocktails reflétaient une évolution du goût, leurs verres adoptèrent des lignes modernistes,
particulièrement le verre à martini, sorte de variante géométrique de la coupe à champagne qui avait elle-même remplacé la flûte au tournant du siècle. Mais ce qui propulsa ce modèle depuis le monde de rêve de quelques privilégiés jusque chez Monsieur Tout-le-Monde, ce fut l'évolution du service à cocktail. En effet, le martini et les accessoires pour le servir étaient visibles au cinéma.
My name is Bond, James Bond.
Dans les cafés et dans la presse, les grands fabricants saisirent l'occasion pour commercialiser des services à martini comme alternative domestique à une société frappée par la crise de 1929. Les shakers, agitateurs, passoires et verres à martini de ces services se vendirent par milliers, apportant dans les foyers un petit air des beaux quartiers de New York et des collines d'Hollywood.
Snob.
Catherine Hepburn incarnait ce glamour à la ville comme à l'écran, notamment dans Indiscrétion, où elle joue avec James Stewart en 1940 et où on la voit porter un verre à martini avec beaucoup d'élégance. Le martini et le verre à martini étaient désormais perçus par le grand public comme des symboles de modernité. Le verre à martini est une vedette durable de la verrerie des années 20. Accessible, reconnaissable du premier coup d'œil et sans cesse revisité par les illustrateurs, les artistes, les réalisateurs et les designers. Donc voilà, donc c'est des petits condensés d'informations sur un objet précis d'après le regard d'une étudiante en design. Et donc je vous propose après ces histoires d'objets de passer une chasse aux objets avec Emma.
Bonjour, alors comme vient de le dire Maëlan, moi j'ai également travaillé sur l'objet, mais moins sur l'aspect historique de l'objet que sur un aspect sentimental. Donc je me suis tout d'abord intéressée à des objets cultes qui sont entrés dans la conscience collective de façon assez inaperçue. Donc j'ai commencé par un objet que tout le monde connaît bien, qui est Sophie la girafe, et qui nous rappelle à tous notre enfance. Voilà.
Des escaliers, une porte qui grince, des pas étouffés dans un couloir souterrain. Une porte grince à nouveau. La poussière ayant élu demeure se trouve soudain dérangée d'un long sommeil. Des particules se soulèvent et laissent entrevoir le chêne rongé des caissons de bois. Des pas. Un coffre s'ouvre. De légers couinements presque éteints. La blancheur ternie d'un objet familier qui laisse percevoir une robe tachetée d'un brun clair. Son élancement trahit des rondeurs câlines. Au sommet de son crâne, deux protubérances dressées comme des antennes. Il transparaît progressivement de ce quadrupède, aux allures étonnamment féminines, une attitude enjouée et avenante. Un réflexe. Un couinement strident rompt le silence ambiant, se répercute comme un écho. Puis s'éteint de nouveau. Le silence. Un face-à-face. Des yeux noirs de jet tranchent avec les pommettes rosées de l'animal, légèrement fléchies sur son postérieur, adressées ses écoutilles. Figé, ce sourire presque amer qui ne la quitte pas.
Si tu veux. Petit magasin de jouets anciens, situé dans la galerie Vivienne, au cœur du 2e arrondissement de Paris. Je m'approche de la vendeuse, qui accepte de me parler d'un de ces nombreux jouets cultes des années 50 qu'est Sophie la girafe.
Nous sommes dans un magasin de jouets qui date de quelle année ?
C'est un magasin de jouets, on va dire, qui existe depuis un milliard d'années, tellement il est ancien. Sophie la girafe, bon, bah, c'est le jouet culte incontournable qui a un intérêt surtout pédagogique qu'on oublie un petit peu.
C'est un
un petit frère de 10 mois, donc il l'utilise. Et ma petite sœur, tout le monde. Enfin, c'est vraiment le truc quand on est petit, Sophie, ouais.
Ce qui est plus intéressant, c'est ces deux petites cornes qu'on tétoune quand on est petit, ce quick infernal, mais que les parents adorent.
Qu'est-ce que ça faisait quick
Exactement.
Ça sentait très mauvais. Caoutchouc.
Un jouet qui est en caoutchouc totalement naturel, ce qui est extrêmement rare, qui est encore fabriqué en France. Donc c'est plus, moi je m'attache plus à ce genre de choses en disant que si Sophie la girafe a encore le vent en poupe, c'est parce que les bébés l'adorent.
C'est quoi une girafe? Ben lui, tu l'avais quand tu étais plus petit.
Lui, il l'avait. Lui, il jouait avec.
Il y a le côté un peu vintage, osso, Frenchie, etc. Bon, bah ça c'est le problème des adultes. Moi, c'est vrai qu'en tant que pédagogue et marchande de jouets, qui m'attache vraiment à trouver les bons jouets, c'est vrai que Sophie la girafe, la vraie, parce que maintenant, bien sûr, il y a plein, comme Sophie est redevenue un peu, justement, un jouet phare dans l'univers de la grande distribution, il y a énormément, maintenant, de jouer un peu détourné de la vraie Sophie, qui est la seule et unique, parfaite, légère, bonne à mâchouiller. Elle est bien.
Voilà, donc j'ai ensuite continué sur ma lancée en m'intéressant à d'autres objets, et notamment des produits de consommation qui, eux aussi, entrent dans notre quotidien. Enfin, de plus en plus, en fait, avec l'expansion de cette société de consommation. Du coup, j'ai pris le Coca, qui est très international, qui plus est, et j'ai essayé, sous un côté un peu sarcastique, d'analyser le produit. Voilà.
4000 litres de Coca-Cola sont bus à travers le monde par seconde. Dans les bars.
Bonjour. Un Coca, s'il vous plaît.
Sur les quais de gare. Au McDo.
Bonjour. Un menu maximum chicken. Le Coca.
Le Coca, c'est de l'extrait de feuilles de coca, de l'acide citrique, de la caféine, beaucoup de sucre, de l'eau tout de même, du jus de citron, de la vanille, du caramel, de l'alcool, à consommer avec modération donc, de l'huile d'orange, de l'huile de noix de muscade, de la coriandre, de l'essence de néroli, de la cannelle et de l'huile de citron. Une recette pas si secrète que ça.
Et enfin, pour terminer, j'ai choisi de retracer un peu l'actualité du design en un an, donc que ce soit un design de produit essentiellement. Donc j'ai été faire un tour sur Design Boom et j'ai vu des créations en tout genre, pas toujours très pertinentes, et donc j'ai décidé de poser un peu un regard dessus, voir que le design n'est pas toujours ce qu'on croit et peut parfois être là où on l'attend pas du tout. Et voilà, toujours un peu sur le même ton, j'ai monté une petite émission en analysant un peu ces sorties de l'année.
Quelle chance que d'être entouré de ces cerveaux bouillonnants et créatifs qui s'efforcent en permanence de nous concocter de délicieuses solutions à notre acas du quotidien. Alors, cette semaine, on est parti pour vous à la chasse aux objets et autres merveilles. Et voici ce que l'on vous a déniché. 10 projets originaux, et c'est le moins qu'on puisse dire, qui ont marqué l'année qui est sur le point de s'achever. Un peu de sport pour commencer. Allons donc faire un tour outre-Rhin. Pour notre ami pongiste Timo Boll, heureux vainqueur de l'Open de Malte et de l'Open de Chine 2014, le leader allemand de robots industriels Kuka a mis au point un robot ultra réactif. prénommé Agilus, ce robot est programmé pour affronter le champion. Angle, stratégie, probabilité de jeu, tout a été calculé pour faire de ce robot un adversaire de taille pour les plus férus joueurs de ping-pong. Pour les petits rats de l'opéra, la designer espagnole Lazy Troubat allie design graphique et design de produits dans son projet E-Traces. Le projet capture les mouvements de danse et les transforme en sensations visuelles. High-tech, les ballerines à pointe. Grâce à elle, la pression des pieds des danseuses sur le sol est retranscrite en signaux électroniques. Séance relooking pour un engin volant. Un bombardier privé Global 5000 a vu sa robe entièrement redesignée par le Livery Project. L'avion a été orné de 150 bandes verticales, migrant graduellement du blanc au taupe, et choisi par le Happy Design Studio d'après un luxurieux détail de céramique. Pour un luxe sans frontières. On ne vous apprendra pas que le monde du travail vit en ce moment un grand bouleversement. Nous sommes plus mobiles, plus connectés, et nos lieux de travail sont mis à mal par ces paradigmes changeants. Quoi de mieux donc qu'un bureau ambulant en carton pour vous permettre de travailler n'importe où, n'importe quand et avec n'importe qui? C'est la possibilité que vous offre désormais Refall, produit de trois designers néo-zélandais. Un projet signé José Bové? Étonnamment non. C'est à la designer Nadie Meidari que l'on doit ses rasoirs en papier 100% écolo et recyclable. Conçu pour un usage unique, le rasoir est fabriqué depuis une simple feuille de papier waterproof. Bic et sa gamme jetable n'ont qu'à bien se tenir. Les maniaques de l'hygiène pourront aussi être comblés pour Noël. Le Syrien Annie Douagi prend soin de leur dentition avec un chewing-gum sans sucre au packaging Aguisha. Empaquetés en plaquettes maquillées d'un large sourire, ces chewing-gums reconstituent ensemble une dentition exemplaire. La gamme se décline en trois parfums mentholés pour venir s'intercaler entre deux repas et protéger vos quenottes. Effrayant dans tout ça. David Obendorfer n'a pas oublié les automobilistes passionnés. Il a modernisé et adapté au mode de vie contemporain de ces derniers la série E9 de BMW, datant de 1968. Les solutions stylistiques ont été empruntées au monde nautique. Le vintage a décidément le vent en poupe. Agrémenter la chambre de bébé? Idan Norberg et Gal Bulka y ont pensé. Elephant is in the room est un accessoire en plastique à pluguer sur les prises électriques. Ce petit éléphant saura ravir les branchements de vos enfants. Mais n'oublions pas nos amis les bêtes. Pour lutter contre les dysplasies des hanches de ces pauvres chiens-chiens, Galia West a inventé une laisse prénommée Hipster. La laisse maintient le fémur de l'animal en place lors de ses déplacements, tout en lui préservant une entière liberté de mouvement. Qui plus est, il ne sera pas demandé à votre canidé de surveiller son régime alimentaire. La laisse est adaptable à sa corpulence. Décidément, le design est partout.
Bonjour, moi en fait j'ai travaillé sur une émission traitant de l'expérience usagée. Je suis donc parti enregistrer des récits autour d'objets, espaces, autour des différentes formes du design. Je vous présente donc aujourd'hui un récit autour du rapport à la matérialité. Nous voilà donc rue Véron à quelques mètres de Pigalle.
Bon, alors ça, c'est mes choses. Donc, c'est pas vraiment une boîte, puisqu'il y en a plusieurs aux différents endroits où je me trouve. Je garde tout, en fait. Je garde tout parce que ça me rappelle des moments, des temps. Il y en a qui prennent des photos. Si je pouvais, j'enregistrerais des sons. Mais ce serait un peu encombrant. Alors, je garde tout. Tous les bouts de papier, les bouts de plastique, les paquets de mouchoirs. Non, pas tous les paquets de mouchoirs. Celui-là, il y a un bracelet cassé dedans. Ça appartient à un enfant que j'ai gardé. Voilà. Ça me rappelle ce moment-là. Après, je garde aussi tous les cheveux que je me suis fait couper depuis que je suis petite. Ça, c'est ma mère, d'abord, qui a commencé à le faire. Puis bon, bah, comme j'avais tous mes cheveux que j'avais coupés, que je me suis fait couper depuis que je suis petite, j'ai trouvé ça intéressant de les garder. Du coup, je le fais avec les autres. Je continue de conserver tous les cheveux autour de moi. Tous ces objets-là, je les collectionne, je me contente de les posséder, je les regarde pas toujours. Quand je les regarde, je les trie, et puis ce qui me rappelle rien, je le jette. Il y en a qui écrivent leur vie, moi je garde des objets. Et j'étais amoureuse d'un mec, et que du coup je gardais les trucs qu'il me filait. Et il me filait un truc par jour. Et de temps en temps c'était un journal, parfois un papier, parfois... Et puis, en fait, au final, en regardant tout ce que j'avais collectionné, ça me racontait toute l'histoire et l'évolution. Et du coup, j'ai continué à le faire avec les différentes rencontres, les gens, les cours. Je rentre d'une soirée, je passe dans une rue, je vois un papier rouge, je garde le papier rouge. Le lendemain, je me rappelle de la soirée, un an après, je m'en souviens encore. Voilà. J'ai commencé il y a 6 ans. Et depuis, j'ai une grosse boîte centrale qui se trouve à Nantes dans ma famille et après j'ai des extensions de boîtes partout où je vais et quand je rentre dans ma famille je ramène tout ça et je le stocke et de temps en temps je regarde tout mais je le fais pas trop souvent parce que ça prend une bonne journée. Ma mère est un peu toquée aussi je pense parce que par exemple elle garde toutes les coquilles d'œufs qu'on mange, elle les mixe et elle les met dans des bocaux, avec la date dessus. Donc on sait pas trop à quoi ça sert, mais je trouve ça bien de garder en bocaux toutes les coquilles d'œufs qu'on a mangées dans notre vie. Ça permet de prendre du recul et de faire un constat sur les choses, je sais pas. J'y pense pas tous les jours, mais quand je passe devant ces bocaux avec des coquilles d'œufs dedans, je me dis qu'on mange beaucoup d'œufs, et puis après la journée reprend son cours. Et j'aime bien faire ce petit constat à un moment de la journée, à midi, zou.
Alors, ben, bonjour à tous. Donc, personnellement, je me suis en premier lieu interrogée sur le sens qu'on pouvait donner sur le choix du média radiophonique pour une émission de design, justement. Et finalement, tant qu'à parler de design, pourquoi ne pas en profiter pour rendre compte du design sonore ? Car finalement, on est beaucoup plus habitué plus éduqué par notre vue plutôt que par nos oreilles. Et le design sonore, c'est un domaine encore trop peu connu aujourd'hui, et c'est pour ça que je voudrais mettre en avant ce champ de recherche. Alors l'émission de radio que je vous propose, elle propose de s'immerger dans un lieu qu'on a l'habitude d'aller au quotidien et d'explorer les différentes sonorités afin de déceler toutes les fausses notes acoustiques. Et en tant que designer sonore, comment interpréter ces bruits, comment trouver des intermédiaires et des solutions pour améliorer la qualité sonore. Donc voilà, l'émission, elle est racontée sur le ton d'une enquête policière. Alors voilà, je vous laisse écouter.
L'inspecteur Colombo du design sonore. Ici, on résout les mystères acoustiques et on trouve l'agresseur de vos oreilles. Saviez-vous, par exemple, qu'on a besoin de 3 minutes par jour de silence ? Wow, quel boucan ! Ça donne un amalgame de bruits pas très orchestré. Qu'on soit dehors ou chez soi, notre environnement n'est pas de tout repos en ville urbaine. C'est pourquoi, cette fois-ci, notre lieu de crime sera...
Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je vous...
La restauration rapide.
Alors, je vais vous demander vos menus déjeuner sont à combien ?
Ah d'accord.
Il est 12h30. Tout le monde à l'assaut pour dévorer son déjeuner.
On entend les commandes, les échanges, les bavardages. Et surtout les gens affamés devant leur plat.
Mais que se passe-t-il au juste dans tout ce flot de bruit? Alors, mettons nos oreilles en marche, prenons notre loupe et décortiquons ces bruits avec notre scalpel auditif. Nous sommes à la cafette. Voyons un peu ce que nous dévoilent ces objets. La caisse enregistreuse. Le son de mon enfance quand je jouais à la caissière. Ici, c'est presque un son répétitif. Il rythme le passage des clients comme un vrai petit métronome. Ah, les emballages papier. Eux n'ont jamais été très discrets. Au contraire, le bruit du papier froissé et arraché donne inconsciemment le même effet que lorsqu'on ouvre un paquet cadeau. Alors on est pressé, on tient le paquet, on arrache d'un coup sec, on découvre et la surprise se dévoile. Et le papier devient une énorme boulette à taper.
Juste ça en fait.
Ah, les retours de chaise quand on se lève. Ces fameux retours de chaise qui agressent tout le monde. Et surtout à l'école. Ce qui est très étrange, c'est que la chaise, emblème du design, réadaptée par tous les designers, objet utilitaire, indispensable, et même objet de mode, normalement confortable, eh bien... Quand on s'y lève, on a mal aux oreilles. Surtout quand ça s'accumule. Si on arrivait à effacer ce rugissement collectif de pieds de chaise, ça ferait un peu moins de décibels pour les oreilles. C'est bien pour cela que certains restaurants très chics ont une attention particulière au fond et à l'ambiance sonore. Plus calme, on s'autorise une ambiance sonore à la fois bavarde et musicale. Oui ?
Peter,
oui ?
On a trouvé cette échantillon-là.
Ah, magnifique ! Voilà la piste. Un gros bruit de fond, hein ?
Pour l'homme, être exposé longtemps à des niveaux supérieurs à 85 décibels peut être dangereux. C'est le niveau de bruit d'une cantine bruyante, par exemple. À partir de 120 décibels, M. Keller a mal aux oreilles et au-dessus de 140, il peut perdre définitivement l'audition.
Des témoignages sur cette affaire ?
Je sais qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil de décibels, que ce n'est pas bon pour les oreilles, mais tant que ça ne me fait pas mal, tant que ça ne me gêne pas vraiment au quotidien et que je n'ai pas l'impression d'avoir des problèmes d'audition, du coup, je fais pas attention. Et je pense qu'en vieillissant, je ferai plus attention.
Quand c'est très fort, c'est pas supportable. Et même au bout d'un moment, c'est minant. On en a marre, on a envie de se reposer aussi, nous.
Et le designer sonore dans tout ça?
Alors, le design sonore, c'est quelque chose d'extrêmement utile pour l'entreprise, puisque l'entreprise n'en a pas forcément conscience, mais elle laisse énormément d'empreintes sonores. Par la voix, la musique, ou les sons dans ses différentes prises de parole.
Et comment le bruit émis d'une cafétéria peut-elle avoir une influence sur l'individu ?
Vous allez voir, c'est assez simple. Le son a en fait 4 leviers d'action sur l'individu. Le premier levier est physiologique. Il y a un lien direct entre le son qu'on entend et, par exemple, l'émission de neurotransmetteurs. Si je diffuse ceci, c'est pas très agréable. C'est normal, je viens tout simplement de provoquer l'émission de cortisol, la fameuse hormone du stress qui est sécrétée par l'amygdale.
Et en termes de stress, que peut-on dire sur le rapport entre bruit et santé ?
Alors c'est le bruit des transports essentiellement, on pense aux avions, mais c'est tout le bruit et toute la pollution sonore qui va nous impacter en termes de stress et qui va avoir des conséquences, notamment déclencher des pathologies du stress comme l'hypertension artérielle. Et l'Union européenne considère que 900 000 cas d'hypertension seraient favorisés par un bruit excessif chaque année.
Et est-ce que déjà personnellement nous, on peut faire quelque chose pour éviter cela ?
Il est impératif de réduire la durée d'exposition et la durée par semaine d'exposition. Et les experts recommandent de ne pas dépasser 20 heures à 93 décibels ou 4 heures à 100 décibels. C'est-à-dire plus on monte le son, moins on doit le faire longtemps pour préserver ses oreilles.
Mais justement, c'est difficile à calculer.
C'est pas facile de calculer, mais globalement, il faut éviter d'aller en discothèque, de se coller à côté des haut-parleurs. Et si vous le faites ou si vous allez en concert, vous savez, on vous remet des petits bouchons d'oreilles qui vont vous permettre de préserver la qualité acoustique, mais de limiter les effets.
Alors justement, sans devoir porter de bouchons dans la rue, est-ce que le problème d'isolation acoustique ne pourrait être directement résolu par l'intermédiaire des objets qui constituent la cafétéria ou des matériaux utilisés ? Ou encore de l'architecture.
Comme la cloison modulaire Workbase, faite par les frères Bourlec qui, par leur structure en profil aluminium et parois en feutre, créent des modules indépendants qui constituent des îlots propices à une isolation phonique et visuelle et deviennent des espaces de discussion pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Et créons ainsi un réel espace de travail au sein de l'open space.
Bon allez, on y va l'équipe ! C'est le moment de passer à l'action !
Comment faire des espaces de restauration rapide, un lieu de calme propice à la communication et au bien-être auditif de chacun ? C'est à vous de jouer !
Et maintenant, après ce moment d'écoute intensif de bruit,
et si on coupait le son ? À vos stylos !
Alors voilà, là c'était un essai qui peut vraiment se décliner sur plusieurs parties. Là c'était sur l'isolation acoustique. Ça peut vraiment être sur des thèmes de design sonore, enfin qui parle plus de design sonore. Là c'était vraiment un essai où en fait on peut toujours trouver une trame avec en premier lieu le thème, le lieu, après l'écoute des sons de ce lieu-là, avec une analyse, un champ exploratoire, et après une ouverture avec des personnes qui pourraient être vraiment des vrais acousticiens, des vrais designers sonores, et qui peut se décliner sur plusieurs thèmes. Donc voilà. Ce qui était pas évident, c'était que justement faut vraiment bien connaître ce champ-là. Donc là, je commençais à l'explorer, mais voilà, comme ça, c'est une émission qui peut vraiment évoluer.